Bonjour à tous et bonjour aux internautes également. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle année 2019. Donc aujourd'hui, nous allons avoir deux séances de cours, donc deux fois une heure. Le séminaire ne reprend que la semaine prochaine. Et les deux heures de cours vont être un petit peu particulières. Donc la première heure va parler essentiellement de logique et même de théorie des ensembles, donc une logique qui est quand même assez éloignée de ce qu'on a vu jusqu'ici dans le contexte de Curie Award. Et la deuxième heure va parler beaucoup de sémantique des langages de programmation, et en particulier de modèles pour les types. Mais les deux cours, en fait, se rejoignent, chacun l'un l'autre à la fin de chaque cours. Donc, soyez patients avec moi. Et donc le premier cours est intitulé « Le forcing, une transformation de programme comme une autre ?» point d'interrogation. Donc j'ai montré cet extrait de « La disparition » de Georges Perec, le célèbre lipogramme, le roman écrit sans utiliser la lettre E. Parce qu'en fait, c'est dans ce texte que j'ai vu pour la première fois apparaître le mot « forcing », au sens mathématique du terme. Donc c'était il y a longtemps, j'étais encore étudiant en mathématiques. Et bon, les autres mots que je comprenais un tout petit peu, grand cardinal, bon, etc. Forcing, j'avais aucune idée de ce que c'était. Je m'étais juré de regarder un jour. Et donc, ben, 30 ans plus tard, j'ai eu l'occasion de regarder un peu ce que c'est. Et je vais essayer maintenant de partager ça avec vous dans le début de ce cours. Il faut aussi remarquer que donc la technique de forcing a été introduite en 1963-1964 et Perec écrivait en 1969. Donc lui et ses collègues de l'Oulipo étaient au courant des mathématiques vraiment contemporaines. Et donc cette technique de forcing, elle a été inventée pour résoudre, d'une certaine manière, pour étudier l'hypothèse du continu. Et donc il faut que je vous rappelle ce que c'est que l'hypothèse du continu. Et pour ça, il faut que je vous rappelle ce que c'est que la notion de cardinal. Donc, c'est une généralisation qui est due à Cantor, en 1870, de la notion de nombre d'éléments. Donc, pour les ensembles finis, on a une notion très claire du nombre d'éléments, et il suffit de compter. Et deux ensembles ont le même nombre d'éléments. Si je compte trois éléments dans l'un, je compte trois éléments dans l'autre, donc c'est bon, ils ont le même nombre d'éléments. Et Cantor observait qu'on pouvait généraliser cette notion aux ensembles infinis, en disant simplement que deux ensembles X et Y ont le même cardinal, le même nombre, entre guillemets, d'éléments, si et seulement s'il existe une bijection entre X et Y, c'est-à-dire une fonction qui associe à chaque élément de X un et un seul élément de Y, et réciproquement. Et en fait, ça permet en fait d'ordonner les ensembles suivant leurs cardinaux. Donc, comme je l'ai dit, le cardinal de X est égal au cardinal de Y s'il y a une bijection entre X et Y. Le cardinal de X est inférieur ou égal au cardinal de Y s'il existe une injection de X dans Y. Et le cardinal de X est strictement plus petit que le cardinal de Y s'il y a une injection de X dans Y, mais pas d'injection réciproque de Y dans X. Et Cantor a montré très rapidement donc deux exemples, enfin un exemple fondamental de inférieur ou égal strict entre cardinaux. Le cardinal de N, l'ensemble des entiers, est strictement plus petit que le cardinal de R, l'ensemble des réels. Et un peu plus généralement, pour tout ensemble X, son cardinal est strictement plus petit que le cardinal de P de X, l'ensemble des parties de X, l'ensemble des sous-ensembles de X, ou l'ensemble des fonctions, si vous voulez, de X dans 0, 1. Et ça se montre avec la célèbre technique de diagonalisation de Cantor. Mais en particulier, donc, ça fait apparaître deux sortes d'infinis. Il y a l'infini dénombrable d'un côté, les entiers, et l'infini continu de l'autre, les réels. Donc, dans l'infini dénombrable, on a grand N, les entiers naturels, bien sûr, mais aussi les entiers relatifs Z, les rationnels Q, les NU plaies d'entiers, les mots finis sur un alphabet fini, les mots finis sur N, les formules mathématiques, comme l'a montré Gödel avec son codage, les programmes informatiques, les machines de Turing, les fonctions calculables, en gros, tout ce qui nous intéresse, nous, les informaticiens, est de l'infini dénombrable. Et puis l'infini continu, donc c'est R, c'est l'ensemble des parties de N, c'est les complexes, bien sûr, c'est les NU plaies de réel, c'est les fonctions de N dans un alphabet, enfin les mots infinis, donc les fonctions de N dans un alphabet à au moins deux lettres, ou même les fonctions de n dans n. Donc tout ça a la puissance du continu, comme disait Cantor. Et l'hypothèse du continu, donc, que Cantor a formulée très rapidement, c'est qu'il n'y a aucun cardinal, strictement compris, entre l'infini dénombrable et l'infini continu. Donc vous n'arriverez pas à trouver l'ensemble X dont le cardinal est strictement plus grand que celui de N et strictement plus petit que celui de R ou celui de P de L. Alors une autre manière de formuler l'hypothèse, c'est de dire que tout sous-ensemble des réels, de R, donc tout ensemble de réels, est soit fini, soit dénombrable, soit isomorphe en bijection avec R lui-même. Et alors on peut généraliser cette hypothèse en introduisant l'énumération des cardinaux infinis. Donc si vous avez l'axiome du choix à votre disposition, vous pouvez poser donc alpha 0, le premier élément de cette énumération, qui est le cardinal des entiers, donc c'est le premier cardinal infini, et puis dire que alpha plus 1, c'est le plus petit cardinal qui est strictement plus grand que aleph de alpha, le précédent cardinal. D'accord. Et puis vous pouvez comme ça passer avec des ordinaux, donc passer à la limite aussi, et vous avez donc toute une hiérarchie, une énumération des cardinaux infinis indexés par des ordinaux. Et ce que dit le théorème de Cantor, c'est que aleph de alpha plus 1 est inférieur ou égal à 2 puissance aleph de alpha, c'est-à-dire ça c'est le cardinal des parties d'un ensemble de cardinal aleph de alpha ou des fonctions de aleph de alpha dans 0, 1. Et l'hypothèse du continu, donc, c'est que aleph de 1 est égal à 2 puissance aleph 0, pas juste inférieur ou égal, mais égal. Et l'hypothèse du continu généralisé, c'est que pour tout ordinal, aleph de alpha plus 1 est égal, et non pas inférieur ou égal, à 2 puissance aleph de alpha. Bon. Et bien, cette hypothèse du continu, ça a été un grand problème mathématique. Donc, Cantor l'a énoncé vers 1878 et il a essayé de la démontrer toute sa vie et sans y arriver, ce qui a dû sans doute contribuer à ses problèmes de santé mentale. Et en 1900, et d'autres essayent aussi, ils n'y arrivent pas. Et en 1900, David Hilbert liste l'hypothèse du continu en premier dans sa liste de 23 grands problèmes ouverts mathématiques pour le XXe siècle. Et rappelez-vous, le deuxième grand problème ouvert, c'était la décidabilité de l'arithmétique. Et puis, pas grand-chose se passe jusqu'à 1938, où Kurt Gödel démontre que l'hypothèse du continu, et même l'hypothèse du continu généralisé, est cohérente avec la théorie des ensembles. Donc Zermelo-Frankel pour l'hypothèse du continu, Zermelo-Frankel avec le choix, ZFC, pour l'hypothèse généralisée. Donc cohérente au sens que vous pouvez supposer qu'elle est vraie et vous ne tenez pas d'incohérence, vous n'arrivez pas à démontrer une propriété fausse. Et ça, ça veut dire aussi que, du coup, on ne peut pas démontrer dans ZFC la négation de l'hypothèse du continu. On ne peut pas démontrer qu'elle est fausse et on peut supposer qu'elle est vraie. Et en 1964, Paul Cohen montre exactement la propriété inverse, c'est-à-dire que la négation de l'hypothèse du continu est cohérente avec ZFC. Vous pouvez supposer que l'hypothèse du continu est fausse et vous n'auriez pas de contradiction. Et ça veut dire également que vous ne pouvez pas démontrer l'hypothèse du continu juste à partir des axiomes de la théorie des ensembles. Et c'est pour faire cette démonstration qu'il a développé cette technique de forcing qui a révolutionné la logique. Et il a reçu la médaille Fields en 1966 pour ses travaux. Et donc ensuite, il y a eu tout un tas d'autres résultats comme ça de cohérence relative, et en particulier Easton, donc, qui a montré la cohérence d'une généralisation de la négation de l'hypothèse de continu, c'est-à-dire que l'hypothèse du continu, on peut supposer que l'hypothèse du continu est violée pour chaque cardinal aleph de alpha, d'accord, et ça reste cohérent. Et donc, cette hypothèse du continu, ou hypothèse du continu généralisée, est indépendante de la théorie des ensembles de Zermelo-Frankel, au sens où donc, on peut supposer que HC est vrai, la prendre comme axiome, aucune contradiction n'en découle, on peut supposer qu'elle est fausse, prendre sa négation comme axiome, aucune contradiction n'en découle, et donc on ne peut démontrer ni l'hypothèse du continu ni sa négation à partir des axiomes de ZF. Et alors, avec les mêmes techniques, à peu près à la même époque, donc, on a montré d'autres propriétés d'indépendance, par exemple l'axiome du choix, on peut le prendre, on peut supposer qu'il est faux, et ça se démontre en fait en même temps que l'indépendance de l'hypothèse du continu, par les mêmes techniques, celle de Gödel et celle de Cohen. Alors, Gödel, je vais essayer d'expliquer un petit peu les grandes lignes de la preuve de Gödel et puis de celle de Cohen. Et donc, les deux preuves s'appuient sur des modèles de la théorie des ensembles. Donc, il faut que j'explique un tout petit peu ce que c'est. Donc, c'est quoi la théorie des ensembles ? Ben, c'est un peu comme une structure algébrique ou comme la structure des groupes, d'accord ? La théorie des ensembles, c'est un symbole, appartient à, et 8 axiomes. Alors, je ne vous les ai pas listés sous forme mathématique, donc ça, c'est leur nom. Par exemple, l'extensionnalité, c'est que si A appartient à X équivaut à A appartient à Y pour tout A, alors X est égal à Y. Bon. Et de ce point de vue-là, la structure des groupes, c'est aussi 3 symboles, l'unité, le produit et l'inverse, et 3 identités qui sont supposées satisfaire. Et maintenant, on a des groupes particulier. Z, muni de l'addition et de l'inverse, c'est un groupe. D'accord ? Et de la même manière, on pourrait dire que c'est un modèle de la théorie des groupes, si on était un petit peu pédant. Eh bien, de la même manière, un modèle de la théorie des ensembles, c'est juste une collection d'objets, de choses, et un prédicat appartient à, qui satisfont les 8 axiomes. Alors évidemment, c'est plus difficile de donner des exemples de modèles de la théorie des ensembles. C'est facile de donner des exemples de groupes. Les modèles de la théorie des ensembles, on a tendance à penser que c'est eux-mêmes des ensembles ou que ça vient d'une autre théorie des ensembles. En gros, ça tourne un peu en rond. On a tellement appris à l'école à raisonner dans la théorie des ensembles et non pas dans un modèle particulier de cette théorie qu'on a même du mal à imaginer ce que c'est qu'un modèle de la théorie des ensembles. Mais il en existe, enfin, pardon, on peut, si la théorie des ensembles est cohérente, il en existe, et on peut en construire, par exemple, avec des approches catégoriques, ou avec en théorie des types de Martin Luff, ou etc. Et alors, pourquoi on s'intéresse, pourquoi les logiciens s'intéressent au modèle de la théorie des ensembles ? C'est que s'il existe un modèle pour cette théorie, c'est que ça montre que les axiomes de la théorie sont cohérents. On ne peut pas démontrer l'absurdité, le bottom. Et même la réciproque est vraie, comme l'a montré Gödel dans son théorème de complétude de 1930. Donc si ZF est cohérent, il admet un modèle. Mais ce qui est intéressant, après, c'est d'avoir des modèles qui satisfont non seulement les axiomes, mais aussi une hypothèse supplémentaire, H. Parce que si on a un modèle pour ZF qui satisfait H, ça montre que ZF plus H est cohérent. Ça montre qu'on ne peut pas démontrer la négation de H à partir des axiomes de ZF. Et donc, ce qu'a fait Gödel, ce qu'a démontré Gödel en 1938, c'est exactement ça. Il a supposé un modèle M de ZF, et il a construit ce qu'on appelle un modèle intérieur, L, qui est un modèle de ZF aussi, et satisfait l'hypothèse du continu. Ce qu'a démontré Cohen en 1964, c'est l'approche inverse, enfin symétrique, pardon. Il a, étant donné un modèle M de ZF, on construit une extension de ce modèle, M crochet G, qui a un élément de plus, qui s'appelle G, et qui a des propriétés bien choisies, de manière à satisfaire la négation de l'hypothèse du continu. Alors, en deux transparents, une petite intuition de la construction de Gödel. Donc, l'idée de Gödel, donc on part d'un modèle de ZF, M, et puis la relation d'appartenance. L'idée, c'est de s'intéresser aux ensembles que l'on peut construire, par des formules logiques, essentiellement par compréhension des ensembles. Et donc, étant donné X un ensemble, on a def de X, les ensembles, donc un ensemble des ensembles que l'on peut définir par des formules logiques phi, dont toutes les variables parcourent en X. D'accord ? Donc, un élément de def de X est de la forme l'ensemble des X appartenant à X, tel qu'une certaine formule phi est vraie, interprétée donc, vis-à-vis de X et de l'appartenance. Et donc, quelque part, si on a déjà construit un ensemble X d'ensemble, ça peut nous permettre d'en construire davantage. D'accord ? Bien sûr, donc on va faire une petite récurrence. On va être une partie, L0, ça va être l'ensemble vide. L de alpha plus 1, ça va être ce qui est définissable à partir de L de alpha. Et puis, bien sûr, c'est des ordinaux, donc on passe à la limite aussi. Et du coup, on obtient une hiérarchie d'ensemble, L alpha. Dans L alpha, il y a tous les ensembles que l'on peut construire en faisant référence uniquement à des éléments de L bêta pour bêta strictement plus petit que alpha. D'accord ? Donc, on a notre jolie hiérarchie d'ensemble, avec de plus en plus d'ensembles dedans. et le tout joliment indexé par des ordinaux, ce qui nous donne aussi un principe de récurrence pour raisonner sur ces ensembles qu'on vient de construire. Et, donc maintenant, si on prend l'union de tout, absolument tous ces ensembles d'ensembles, d'accord, on peut montrer que c'est un modèle de ZF. De plus, il satisfait l'axiome du choix, parce que tout ensemble A appartenant à L est bien ordonné par un ordre dérivé de celui des ordinaux, et L satisfait l'hypothèse du continu généralisé. Alors, la démonstration est un peu plus subtile, mais dans les très très grandes lignes, l'ensemble des parties de L alpha, alors il n'est pas inclus dans L alpha plus 1, ce serait trop beau, d'accord. Il faut monter un peu plus haut. Il est inclus dans un L bêta pour un bêta qui n'est pas trop trop grand. D'accord. Et ça, ça suffit en fait à montrer donc deux puissances aleph de quelque chose. Donc les parties de aleph de gamma sont pas plus grands que aleph de gamma plus 1. D'accord. Et donc on a une égalité. Donc là vraiment c'est avec les mains hein, cette démonstration. Mais encore une fois, c'est cette idée que dans ce modèle de Gödel, il y a assez peu d'ensembles et ils sont très bien, ils se comportent très très bien. D'accord. On sait les construire par récurrence transfinie et du coup on sait raisonner dessus par récurrence. Et du coup, comme il n'y a pas beaucoup d'ensembles, eh ben il n'y a pas de cardinal intermédiaire entre N et R par exemple. L'approche de Gödel, c'est exactement... c'est l'approche de Gödel, d'accord. On part d'un modèle M et on garde que les ensembles qui se comportent bien, les ensembles bien élevés, les ensembles constructibles. L'approche de Cohen est duale. On part d'un modèle M et on va lui adjoindre un nouvel ensemble qui, n'est pas bien élevé du tout, d'accord. Il va perturber les cardinaux, il va faire grossir l'ensemble des parties de N. Il va rajouter plein de parties de N nouvelles. Au point que aleph de 1... le premier cardinal qui est au-dessus de l'aleph de 0, va être strictement plus petit que l'ensemble des parties de l'aleph de 0. D'accord. Et donc, l'hypothèse du continu est fausse. Alors, c'est quoi cette idée d'extension d'une structure algébrique? Bon, c'est un concept qui devrait vous être familier si vous avez fait un peu de maths. Par exemple, on part d'un anneau A et puis on lui ajoute un élément qu'on appelle grand X, différent de tous les éléments de A. Alors, comme A est un anneau, on doit ajouter aussi 2x ou moins x ou x fois x, c'est-à-dire x carré, x fois x fois x, c'est-à-dire x cube, et puis toutes leurs combinaisons linéaires. Donc, on se retrouve en fait avec A de x, l'anneau des polynômes à coefficient dans A. D'accord ? Mais c'est juste le fait que je prends un anneau, j'ajoute un élément et je clos par les opérations de l'anneau. De même, si vous prenez le corps R, vous lui ajoutez un élément petit i tel que i carré égale moins 1. D'accord. Vous ajoutez aussi tous les x plus iy, et puis en développant, et en bref, vous obtenez les formules pour l'addition, la multiplication, etc. Et vous obtenez grand C, le corps des complexes. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Par exemple, si vous ajoutez au corps R totalement ordonné, l'élément i tel que i carré égale moins 1, dans le corps totalement ordonné R, on a cette propriété que tout carré est supérieur ou égal à 0. D'accord. Et donc cette propriété, elle est invalidée, elle est contredite par l'élément que vous venez d'ajouter, donc votre extension est incohérente. D'accord. La démonstration de Cohen, c'est un petit peu ça, c'est comment partir d'un modèle M, de la théorie des ensembles, et puis lui ajouter un élément, comme le X, l'inconnu des polynômes, qui va nous aider à invalider l'hypothèse du continu. Donc Cohen part d'un modèle de ZF, et alors on sait, par des travaux antérieurs, qu'on peut supposer que ce modèle est transitif, donc une propriété technique, qui aide à faire des ordinaux, bon, pas très important, et qu'il est dénombrable. Donc il y a un nombre dénombrable d'ensembles, d'objets dans ce modèle. Alors ça peut vous sembler un peu surprenant, parce que s'il n'y a qu'un nombre dénombrable d'ensembles, comment est-ce qu'on va parler d'infini au-delà de N? Comment on va parler de R? Comment on va faire une théorie des cardinaux? Mais en fait, ça reste possible. À l'intérieur du modèle, et on peut construire N, on peut construire R, et R est strictement plus grand que N. Simplement, c'est nous, vu de l'extérieur, qui voyons bien que les deux ensembles qui correspondent à N et à R sont tous les deux dénombrables et donc en bijection. Mais la bijection, elle n'existe pas dans le modèle ne la voit pas. D'accord, c'est un peu comme si, je sais pas, dans le modèle, il n'y avait que des poissons, enfin des animaux qui vivent dans l'eau, d'accord, des animaux aquatiques. Et pour un animal aquatique, la notion de distance n'est pas la même que pour un oiseau. D'accord, y a des points sur la terre ferme qui ne sont pas accessibles, et puis il y a même des points où le poisson va être obligé de faire un très long détour pour l'atteindre, alors que l'oiseau peut aller en ligne droite. Et c'est un peu la même chose. D'accord, dans ce modèle dénombrable, il y a des cardinaux qui ont l'air beaucoup plus grands que pour nous. Bon. Étape suivante, donc construire dans ce modèle la hiérarchie des cardinaux, et en particulier donc trouver un ensemble K dont le cardinal c'est Aleph 2, d'accord, donc le deuxième cardinal infini non dénombrable. Maintenant, on ajoute à M un nouvel élément G comme générique, donc G c'est une fonction de K dans les ensembles dans les parties de N. Et ce nouvel élément, ça va nous donner M de G. On montre que M de G, muni d'une inclusion bien définie, est un modèle de ZF. On montre que dans M de G, on peut prouver que la fonction G est injective, ce qui est un petit peu surprenant aussi, mais bon, parce que Aleph de 2, c'est quand même un très très grand cardinal, mais rappelons-nous qu'en fait, il est dénombrable. D'accord, donc, vu de l'extérieur, cette fonction n'est pas complètement absurde. Et en fait, elle existe aussi dans le modèle et elle est injective. Et donc, dans le modèle N de G, on peut démontrer que le cardinal de K est inférieur ou égal au cardinal de P de N, qui est 2 puissance à l'F0. Alors, on y est presque. Non, il faut montrer que les cardinaux sont préservés par l'extension, parce qu'on a ajouté des choses dans notre modèle, et peut-être qu'on a ajouté les bijections manquantes, celles qui aplatissent Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2 du modèle. Mais non, on arrive à montrer que dans le modèle étendu, le cardinal de K est toujours Aleph 2, et c'est gagné, puisque dans M de G, donc on a Aleph 0 strictement plus petit que Aleph 2 1 par définition, strictement plus petit que Aleph 2 2 par définition, inférieur ou égal à 2 puissance de Aleph 0, puisqu'on a ça. Et donc, Aleph de 1 est bien strictement compris entre Aleph 0 et 2 puissance Aleph 0. L'hypothèse du continu est niée, est contredite. Voilà. Et donc la technique essentielle pour faire tout ça, c'est cette technique de forcing, dont je vais maintenant parler un petit peu. Parce que construire ce modèle étendu, ce n'est pas très très difficile. On peut réutiliser plus ou moins la construction de Gödel, par exemple. Mais ce qui est dur, c'est de raisonner dans ce modèle, savoir quelles sont les propriétés, en particulier de G, le nouvel élément qu'on vient d'introduire, et comment démontrer une propriété de G, ou plus généralement une formule logique, à l'intérieur de M de G. Et l'idée géniale de Cohen, c'est de décrire G et ses propriétés via des approximations finies, mais aussi précises qu'on le souhaite, qui vivent dans M, qui sont dans le modèle initial, d'accord, donc sur lesquels on peut raisonner avec en logique usuelle avec nos axiomes de la théorie des ensembles. Et ces approximations finies, alors que l'objet G lui-même, il n'existe pas dans notre monde à nous. D'accord, et ces approximations finies, on les appelle les conditions de forcing. Et alors j'aime bien cette métaphore, elle fait un peu guerre froide, mais bon. Donc c'est un peu comme un manipulateur, d'accord. Donc au bout des pinces, là, derrière une vitre de protection, on a un objet dangereux qui est en train de se faire manipuler. Donc c'est M de G, un modèle qui est sur le point d'exploser parce qu'on lui a mis, injecté à l'F2 l'ensemble nouveau d'entier dans la figure. Et ça fait quand même une pression très très élevée. Et donc derrière la vitre, c'est nous, le mathématicien, et les poignées du manipulateur, ça va être les conditions de forcing. C'est elles qui vont nous permettre de bouger des choses à l'intérieur de M de G. Bon, c'est une métaphore, elle vaut ce qu'elle vaut. Donc, un peu plus formellement, un ensemble de conditions de forcing, c'est donc un ensemble partiellement ordonné, C, avec un ordre partiel, et Q plus petit que P signifie que la condition Q est plus fine que la condition P. Elle vous donne plus d'informations, elle est plus précise. Par exemple, si on peut penser aux conditions de forcing comme à des intervalles qui encadrent un nombre. Et plus l'intervalle est petit, plus l'encadrement est précis et nous dit de choses sur le nombre. Et donc, on peut aussi lire ça comme juste une implication logique. Q implique P. Alors, par exemple, supposons qu'on veuille construire un élément générique G qui est juste un ensemble d'entiers. Pas toute une famille d'ensembles d'entiers, mais juste un ensemble d'entiers. On va prendre comme condition de forcing des fonctions finies des entiers dans 0, 1. Par exemple, on va dire que 4 est associé à 1, 13 est associé à 0, et les autres entiers, on ne sait pas. Et ça, ça se lit en disant « je sais que 4 est danger, je sais que 13 n'est pas danger, et pour les autres éléments, je ne sais pas. » D'accord ? Et donc, bien sûr, on va ordonner ces conditions par l'inclusion inverse. D'accord ? Plus on sait de choses, plus notre ensemble G est déterminé de manière précise. En revanche, il ne faut pas changer d'avis. Si on a dit que 4 appartient à l'ensemble dans P, il faut que 4 appartienne à l'ensemble dans Q aussi. Et maintenant, arrive le fameux forcing. Donc, étant donné une formule logique A, qui parle d'éléments de M de G, on dit que A est forcé par la condition P, et on écrit donc P force A. Si la formule, c'est justement N appartient à G bar, donc G bar, c'est le petit nom qu'on donne à G. D'accord. Tous les éléments en fait, de M de G ont des petits noms qui nous permettent de les désigner, en particulier G, on va l'appeler G bar. Et donc N appartient à G bar, ça c'est une formule logique, qui est forcée par P si et seulement si P de N égale à 1. Maintenant, une conjonction est forcée par P si A et B est forcé par P, si A est forcé par P, B est forcé par P. De même, pour tout x, a de x est forcé par p si a de x est forcé par p pour tout x. Bon, jusqu'ici, c'est trivial. Et ce qui est intéressant, c'est la négation. P force non a, non, p force que a est fausse, si et seulement si, pour tout q qui raffine p, tout q plus fine que p, on ne peut pas montrer que q force a. Donc, non seulement P ne doit pas forcer A, mais toutes les conditions plus fines que P ne doivent pas forcer A non plus. Et puis, par négation, on peut définir le « il existe » et le « où ». Donc c'est une condition qui est monotone, d'accord ? Si P force A, alors tout Q plus petit que P force A aussi. Et le grand théorème qui arrive à la fin des articles de Cohen, c'est que pour tout P donné, il existe une extension MG de M, telle que pour toute formule A, A est vrai dans M de G, si et seulement si, P force A. Et P force A, c'est une formule qui est dans M, notre modèle d'origine, et sur laquelle on peut raisonner avec les axiomes de la théorie des ensembles usuels. D'accord ? Donc on peut raisonner, ici on peut démontrer des choses en théorie des ensembles qui vont forcer que A est vrai dans le modèle, est satisfaite par le modèle. Ce modèle qu'on ne contrôle pas très bien, mais on arrive quand même à dire un certain nombre de ses propriétés. Par exemple, rappelez-vous cet ensemble générique d'entiers, G. Eh bien, nous allons montrer qu'il contient une infinité de nombres premiers. D'accord ? Parce que s'il contenait qu'un nombre fini de nombres premiers, il ne serait pas très générique. Il ressemblerait trop à un ensemble qu'on a déjà. Donc, comment est-ce qu'on montre qu'il a une infinité de nombres premiers ? Donc il faut montrer cette formule logique. Pour tout M, il existe N, N appartient à G, N supérieur ou égal à M, N premier. Et par le théorème de forcing, donc on suppose qu'on a appliqué le théorème de forcing avec la condition P, qui est l'ensemble vide, la condition initiale. Il faut donc montrer que l'ensemble vide force cette formule. Alors maintenant, on n'a pas le existe, mais on va l'exprimer comme non pour tout non. Et puis on va dérouler la définition du forcing. Et on va obtenir ceci. Pour tout M, pour tout P, il faut montrer qu'il existe Q, qui raffine P, et N, tel que Q de N vaut 1, N est supérieur ou égal à M, et N est premier. Et ça, c'est facile, parce que, bon, déjà, il y a une infinité de nombres premiers, et la fonction P étant une fonction finie, d'accord, on peut toujours trouver un nombre N qui n'est pas défini dans P, d'accord, et qui va être premier, et qui va être plus grand que M. Et du coup, il suffit de prendre Q qui est P plus N devient 1. C'est bien quelque chose qui raffine P. C'est bien quelque chose qui valide Q de N égale 1. Et donc, c'est réussi. Donc essentiellement, quelle que soit une approximation finie de G, on peut construire une approximation plus fine qui contient un nombre premier supplémentaire. D'accord ? Et donc, qui contient tous les nombres premiers. C'est QFD. Alors, dans la démonstration de Cohen... Donc rappelez-vous, il construit une fonction de K, un ensemble qui a pour cardinal à l'F2, dans les parties de N. Et donc là, ben c'est presque la même chose que d'ajouter un ensemble générique. Là, on en ajoute K. Et donc, on prend comme condition de forcing des fonctions finies de k croix n dans 0, 1, qui sont ordonnées par inclusion inverse. Et donc là encore, on dit que p force n appartient à g de x, si et seulement si p de x et de n vaut 1. Et avec un raisonnement un peu de cette forme-là, on peut montrer que g est injective. D'accord ? Donc pour tout x1, x2, si x1 est différent de x2, il existe un monde à partir duquel g de x1 est différent de g de x2. Voilà ce que, en fait, ce que dit réellement la preuve. Mais donc, dans M de G, G est injective. Et c'est ça qui permet de conclure ensuite. Bon. Donc maintenant, on va arrêter de parler de la preuve de Cohen, mais on va continuer à parler de forcing. Parce que, donc, d'abord, c'est un outil qui a vraiment révolutionné la théorie des ensembles. Donc, à partir des années 60, il y a plein d'autres applications du forcing en logique mathématique, plus généralement, pas juste en théorie des ensembles. Donc, le forcing, c'est une idée à l'origine qui est vraiment liée à la théorie des ensembles et à la logique classique, mais elle entre en résonance avec des travaux de Kripke sur ce qu'on appelle les modèles de Kripke, qui sont un moyen de raisonner sur les logiques modales et la logique intuitionniste. Donc on va en toucher un petit mot. Et puis, ça rentre aussi en résonance avec les travaux sur la logique catégorique. En particulier Lovir et Tierney, qui essayent de reformuler la logique en termes de théorie des catégories et de topos. Et en fait, cette construction de forcing a un analogue dans ce domaine des catégories qui s'appelle la construction des faisceaux, la construction des pré-faisceaux. Alors, je ne vais pas vous parler de préfaisseau et de faisceau, parce que je ne connais pas très bien tout ça. Je vais vous parler un tout petit peu de modèle de Kripke pour qu'on voit un peu plus le parallèle avec le forcing de Cohen. Donc, l'idée d'un modèle de Kripke, c'est qu'au lieu de dire, au lieu de parler de la validité d'une formule logique dans un modèle, en fait, on a une famille de modèles qui sont indexés par un monde P. Donc, on note P satisfait, dans le monde P, la formule A est vraie. Et on peut voir un monde P comme un ensemble de faits élémentaires, donc de propositions atomiques. Et les mondes sont ordonnés. Alors je fais exprès d'employer les mêmes notations. Hein. Donc le monde Q est accessible à partir du monde P si tous les faits qui sont vrais dans P restent vrais dans Q, mais on peut avoir d'autres faits en plus dans Q. Et donc dans un modèle de Kripke intuitionniste, comment est-ce qu'on définit cette relation, une formule A est vraie dans le monde P? Donc si la formule c'est justement une formule de base, un énoncé atomique, eh bien il est vrai dans P si seulement si il appartient à l'ensemble des faits de P. Une conjonction A et B est vraie dans le monde P si A et B sont vrais dans le monde P. Une disjonction A ou B est vraie dans le monde P si A est vrai dans le monde P ou P dans le monde B ou B dans le monde P. Pour tout x est vrai si pour tout x c'est vrai, il existe est vrai si il existe un x tel que c'est vrai. Et la partie intéressante et intuitionniste, c'est A implique B est vrai dans le monde P si pour tout monde accessible Q accessible depuis P, A est vrai dans Q implique B est vrai dans Q. Donc l'implication doit être vraie non seulement dans le monde courant mais dans tous les mondes accessibles. Et même chose pour la négation. Non A est vrai dans le monde P si pour tous les mondes Q accessibles depuis P, Q n'est pas vrai dans le monde A. Et en fait, on peut voir ces deux conditions là en rouge comme la modification minimale qui va garantir une propriété de monotonicité sur les mondes, à savoir que si A est vrai dans le monde P, A est vrai dans tous les mondes accessibles depuis P. D'accord ? Et alors pourquoi Kripke introduit ces modèles ? Donc à l'origine, c'était pour raisonner sur les logiques modales. Je sais pas, on en avait parlé un tout petit peu dans le cadre des monades et autres choses. Donc on va en reparler un petit peu plus aujourd'hui. Donc ces logiques auxquelles on ajoute des modalités, comme par exemple il n'est nécessaire que, carré, ou il est possible que, losange. Et en fait, Kripke introduit ces modèles pour pouvoir raisonner sur toutes ces logiques et voir lesquelles sont cohérentes et lesquelles ne le sont pas. Parce que l'interprétation naturelle de la modalité nécessairement A, c'est de dire que A est vrai dans tous les mondes accessibles depuis le monde courant. Et la modalité possiblement A, c'est qu'il existe un monde accessible depuis P qui va satisfaire A. Mais les modèles de Kripke, c'est aussi très intéressant pour l'intuitionnisme, parce que ce sont les modèles qui Alors d'un côté, donc, toutes les formules A démontrables en logique intuitionniste sont vraies dans tous les mondes de tous les modèles. En revanche, les lois classiques, le tiers exclu, l'élimination de la double négation, qu'on ne veut pas mettre dans la logique intuitionniste, eh bien, elles sont invalides dans certains mondes de certains modèles. Donc, on peut construire des modèles qui invalident les lois classiques, comme le tiers exclu. Et là, je vous ai construit un modèle très simple avec juste deux mondes, P1 et P0, dans lequel le tiers exclu, une certaine formule F est vraie ou non F est vraie, est fausse dans le monde P0. D'accord. Bien. Et donc là où je voulais en venir, c'est qu'il y a une grande ressemblance entre, d'un côté, les conditions de forcing, de l'autre, les mondes d'un modèle de Kripke, et d'un côté, la relation de forcing, P, la condition de forcing P force la formule A dans le, dans le modèle qu'on est en train de construire, et la relation, plutôt du modèle de Kripke, dans le monde P, la formule A est satisfaite. Et c'est au point que certaines personnes qui font des modèles de Kripke lisent ça comme P force A, d'accord, donc le même vocabulaire que dans le forcing de Cohen. Alors ça débouche sur plusieurs choses. Ça débouche en particulier sur une théorie du forcing intuitionniste, à base de modèle de Kripke, dans lequel on peut reproduire tous les résultats d'indépendance de Cohen, cette fois-là pour la théorie des ensembles intuitionnistes, non plus la théorie des ensembles classiques. Par exemple, c'est les travaux de Fitting à partir de 1969. Alors un petit exemple pour voir peut-être comment ça fonctionne. Donc encore une fois, voilà, donc prenons comme monde P les fonctions finies, comme on avait fait pour la preuve de Cohen. Donc prenons les fonctions finies de n dans 0,1. Et donc les faits d'un monde P, c'est les énoncés de base, n appartient à G, tel que P de n est égal à 1. Alors, on ne peut pas montrer directement que dans le monde initial, G contient une infinité de nombres premiers. C'est faux, dès le monde initial. Mais on peut montrer une double négation de cette formule. On peut montrer que pour tout M, il existe N, etc. Donc ce n'est pas faux qu'il existe un N premier tel que. Et la démonstration est exactement celle qu'on a faite tout à l'heure. Et donc, ce qu'on voit apparaître ici, en fait, c'est un lien entre forcing, entre forcing à la Cohen et double négation dans un monde de Kripke. Et plus exactement, on retrouve ces lois du prédicat de forcing de Cohen en composant la satisfaction dans le monde du Kripke avec une traduction doublement négative, celle de Gödel-Gensen, qu'on avait vue dans le cours du 5 décembre 2018, que je vous rappelle ici, donc qui consiste à flanquer des doubles négations devant les « ou » et devant les « il existe ». Et donc, on retrouve effectivement les propriétés attendues du résultat de forcing. Et puis, on sait donc que cette traduction est équivalente à non-non-A. Et donc, on a montré un petit peu l'équivalent du grand théorème de forcing, c'est-à-dire que dans le monde vide, non-non-A est vrai, si et seulement si il existe un monde dans lequel ce prédicat W, ce forcing de A est vrai. Voilà, donc ça c'était juste un lien, un des liens formels donc, qui existent entre ces différentes théories. Et maintenant, donc on va revenir quand même un petit peu plus sur des choses à la Curie Award, on va montrer comment en fait on peut internaliser ces notions de forcing et d'appartenance et de modèle de Kripke dans une théorie des types, donc un de ces formalistes qui est à la fois logique et langage de programmation typé. Alors, qu'est-ce que le forcing, les modèles de Kripke, la construction des préfaisceaux, si vous aimez les catégories, apporte à cette théorie des types? Des résultats d'indépendance. Par exemple, on a pu montrer récemment l'indépendance de l'axiome d'univalence de Voïvodski, dont on parlera à la fin du cours, en particulier Thierry Coquand dans son séminaire. Ça donne des outils pour la logique catégorique. Donc, justement, un des modèles de cet axiome d'univalence, le modèle cubique sur lequel travaille Thierry Coquand, est, semble-t-il, d'inspiration logique catégorique. Mais ça donne aussi, et c'est là que je vais surtout insister, des outils pour la programmation et la sémantique. Par exemple, ça permet, dans une théorie des types, de raisonner, dans Coq, par exemple, de raisonner sur des types récursifs généraux, même ceux qui violent la terminaison. Ou ça donne aussi des idées sur les techniques de step indexing qui vont être l'objet du deuxième cours aujourd'hui. Et alors, symétriquement, ce que la théorie des types et l'autre approche à la Curie-Howard apportent à cette théorie du forcing ou des modèles de Kripke, etc., eh bien, en fait, c'est une présentation sous forme de transformation, sous forme de codage des propositions de la théorie des types étendue, TT crochet de G, dans la théorie des types initiale TT. De la même manière qu'on avait utilisé des transformations négatives pour coder la logique classique dans la logique intuitionniste. D'accord ? Donc, au lieu de raisonner par transformation de modèle, on peut raisonner juste par transformation syntaxique de formule logique. Et moi, je trouve ça beaucoup plus simple. Ouais. Bon, peut-être parce que je suis informaticien. Et la transformation, ce n'est pas juste les formules logiques qui sont transformées, c'est aussi leur terme de preuve, c'est aussi leur démonstration. Et ce qui garantit la cohérence logique de notre approche. D'accord ? On énonce des propriétés logiques et on a aussi construit leur démonstration. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait vu dans le cours sur la paramétricité, là, avant de partir en vacances, ce codage de la paramétricité par Bernardi et ses co-auteurs, où non seulement on exprime des propriétés de paramétricité par transformation syntaxique des types, mais on les démontre aussi en même temps. Alors, entre forcing et théorie des types, donc, il y a des travaux tout à fait récents, encore moins de 10 ans. Les références complètes sont à la fin du support de cours. Et en particulier donc, des travaux de Jean-Louis Krivine qui ont inspiré Alexandre Michel en 2011 et puis son doctorant Lionel Rigg en 2014. Donc là, c'est comment présenter donc, le forcing classique par transformation de programme essentiellement pour une logique qu'il appelle PA oméga, c'est-à-dire l'arithmétique primitive d'ordre oméga, c'est-à-dire à peu près F oméga, donc une logique intuitionniste d'ordre supérieur, plus un opérateur de contrôle pour pouvoir avoir les axiomes classiques. Et alors, j'en parlerai pas plus, mais Alexandre Michel sera notre orateur la semaine prochaine et parlera de réalisabilité et de forcing. Donc, je pense qu'il vous donnera son propre éclairage sur ses travaux et puis la suite de ses travaux. Je vais vous parler plutôt des travaux de Jaber et de ses co-auteurs, donc en 2012 puis en 2016. Eux font du forcing intuitionniste, donc un petit peu plus simple, pour essentiellement le COC, enfin le calcul des constructions avec des univers. Et donc leur premier papier est vraiment une internalisation de la construction des préfaisceaux, donc d'inspiration très catégorique. Et leur deuxième papier, en fait, s'éloigne un peu de ça, et essentiellement une transformation monadique pour en appel par nom. Donc quelque chose qui est moins catégorique, mais qui en fait se comporte mieux vis-à-vis du calcul. Et donc, je vais essayer de vous donner les grandes lignes de cette transformation. Donc là, je suis Jaber, Tabarot et Sozo, le papier de l'X 2012. Donc, on se donne un type P des mondes ou des conditions de forcing et un préordre dessus. Et à une proposition A, donc on va associer une proposition traduction de RAD en P, indexée par un monde P, et qui est similaire à ce que vous écrivez dans un modèle de Kripke, donc A est vrai dans le monde P. Et à une preuve, petit a, donc il y a un terme de type grand A, on va associer une preuve, traduction de petit a indice P, qui va être de type traduction de grand A indice P pour tout monde P de type P. D'accord ? Donc jusqu'ici, c'est assez clair. Et la traduction est complètement guidée, téléguidée par la propriété de l'implication, propriété centrale de l'implication dans les modèles de Kripke. Donc, dans le monde P, A implique P, B est vrai. Si et seulement si, dans tout monde accessible depuis P, A est vrai dans Q implique A, B est vrai dans Q. Et donc, si vous réexprimez ça en termes de produits dépendants, rappelez-vous, la flèche, ça se généralise en pourtout ou en pi. Donc, px de point A, point B, c'est-à-dire si j'ai un x de type A, alors j'ai un B de x. L'interprétation donc, dans le monde P, ça va être que pour tout monde Q inférieur ou égal à P, donc pour tout monde Q de type P de P étant le type des mondes accessibles depuis P, donc pour tout monde Q accessible depuis P et pour tout x de type traduction de A dans Q, j'ai un B de type traduction de B dans Q. J'ai un objet pardon, de type traduction de B donc. Donc, jusqu'ici, c'est très clair. Et alors, on peut faire tourner la manivelle. Mais avant de faire tourner la manivelle, oui, je voulais vous expliquer ou essayer de vous donner, partager avec vous mon intuition, que tout ça est très monadique. Alors c'est une monade un peu spéciale parce que un type ne devient pas un type, il devient une famille de types indexée par un P. Mais donc essentiellement, si on essaye d'écrire ça un peu sous la forme de la transformation monadique, donc A flèche B, ça va être de la forme T, où T est un opérateur qui caractérise la monade, associé à lambda Q, traduction de A dans Q, flèche traduction de B dans Q. Et donc cet opérateur qui donc, prend une fonction des mondes dans les types et voit une fonction des mondes dans les types, on peut la décrire comme ça, donc ça prend un P et ça vous rend le type pour tout Q inférieur ou égal à P, A de Q. D'accord. Et cette monade, moi j'aime bien la voir comme une monade d'entrée asynchrone, au sens des entrées-sorties, d'accord. Mais là on a juste les entrées. Donc le monde P, c'est un journal, c'est une liste des entrées qu'on a déjà reçues. Et les mondes accessibles Q, c'est le journal P auquel on a ajouté 0, 1 ou plusieurs entrées qu'on a reçues depuis. Alors les entrées, elles viennent du monde extérieur, d'accord. On ne les contrôle pas, elles peuvent arriver. Et donc nous emmener dans un monde Q qui est différent de P, qui est accessible depuis P. Et du coup, tout calcul dans cette monade doit être prêt à recevoir de nouvelles entrées. Et donc, pour ça, tout calcul est de la forme pour tout monde Q accessible depuis P, blablabla. Bla, bla. D'accord. Bon, c'est une intuition, elle vaut ce qu'elle vaut. Alors, maintenant, des intuitions qui sont presque justes, mais pas tout à fait. Donc, c'est pas exactement la monade d'environnement. Donc la monade d'environnement, ce serait juste EP flèche A, où on rajoute un monde comme paramètre à tous nos types, tous nos calculs, ce monde étant compris comme un environnement. Parce que dans la monade de forcing, ce monde, cet environnement, il change pendant le calcul. Et il change de manière non déterministe, ce n'est pas nous qui choisissons les changements, mais monotone. Et alors j'ai prononcé le mot monotone, donc ce n'est pas non plus la monade d'état monotone, qu'on avait vu, je crois, comme exemple. Celle qui, donc si on dit le monde P, c'est un état, mémoire, on pourrait dire ah ben je pars d'un monde P et puis je renvoie un résultat A et puis un nouveau monde Q, un nouveau état mémoire Q, excusez-moi, qui a évolué de manière monotone par rapport à P. Alors on peut faire des monades d'état monotone comme ça, mais ça n'est pas la monade de forcing, parce que dans cette monade d'état monotone, c'est le calcul lui-même qui choisit, qui fait évoluer l'état et qui choisit l'état final. Alors que ici, il faut que le calcul reste valable d'une certaine manière, quel que soit l'état final. D'accord. Bon, donc assez d'intuition, et revenons au détail de la traduction. Donc rappelez-vous, on a cette traduction des types de fonctions dépendantes qui est plus ou moins forcée, plus ou moins obligée, pardon. Et du coup, ça nous oblige plus ou moins à définir la traduction des lambda abstractions comme ceci. Je ne vais pas tout vous lire. Et des applications comme cela. Donc, appliquer A à B, c'est appliquer A au monde courant et à B. Bon, pourquoi pas. Alors maintenant, les types sont aussi des termes. D'accord. Donc, la traduction des types doit être définie en fonction de la traduction des termes. Et donc, ça revient en fait à traduire le type vu comme terme et puis à le spécialiser sur le monde courant. Donc, finalement, ça marche. Les univers, ça devient des fonctions constantes. C'est la même univers dans tous les mondes. Et reste le problème des variables. Et alors, patatras, c'est là que tout s'effondre, parce que une variable peut être utilisée dans un monde Q qui est différent du monde P où elle a été liée, où elle a été introduite. D'accord. Vous aviez un lambda X qui a reçu une valeur pour X qui vit dans le monde P, et puis vous êtes passé dans un autre monde, des entrées sont arrivées, vous êtes maintenant dans le monde Q et il faut utiliser X. Et X, il n'a pas le bon type, si j'ose dire. D'accord. X, il ne vit pas dans le bon monde. Et donc c'est là qu'on ressort l'intuition catégorique, c'est que l'interprétation d'un type, ce n'est pas juste une fonction des mondes dans les types, mais c'est aussi un morphisme, qui étant donné deux mondes, Q et R, avec R plus petit que Q, vous explique comment passer du type F de Q au type F de R. Donc comment réinterpréter les valeurs, les choses que vous aviez interprétées dans le monde Q, pour qu'elle soit maintenant correctement interprétée dans le monde R. D'accord. Et donc, on a un joli petit diagramme commutatif comme ça. Et en fait, c'est assez naturel d'avoir ça. Si A est une proposition logique, θ, c'est juste la preuve de la monotonicité du forcing ou de la satisfaction des mondes de Kripke. D'accord. Qu'une proposition A est vraie dans le monde P. Si une proposition A est vraie dans le monde P, elle est vraie dans tous les mondes Q accessibles depuis A. D'accord. C'est exactement θ, là, c'est exactement cette implication. Mais quand le SIA, c'est un type qui calcule, un type de données, on veut en plus des propriétés de fonctorialité du θ, qui est que, par exemple, si on utilise θ pour passer de f2q à f2q, c'est l'identité. Bon. Et tout ça est très naturel quand on vient du monde des catégories, un peu moins quand on est en théorie des types. Mais du coup, voilà, donc on arrive à définir la traduction d'un type. Maintenant, c'est en fait une paire dépendante compliquée. Donc c'est une paire d'une fonction, des mondes dans les types, d'un morphisme, θ, qui va de f de q dans f de r, et en plus d'une preuve que ce morphisme est fonctoriel. Ouf. Et finalement, la traduction d'une variable, donc x dans le monde p. Alors il faut avoir un petit environnement sigma qui nous rappelle que pour chaque variable, elle a, quel est son type et quel est son monde dans lequel elle a été liée. Et donc c'est en fait le morphisme appliqué à x qui nous emmène du monde initial dans lequel x a été introduit vers le monde courant p. Bon. Donc à la fin, on y arrive. Mais ça pose quand même un certain nombre de problèmes, ce codage, en particulier vis-à-vis de l'égalité en théorie des types. Par exemple, si deux types sont convertibles, d'accord, par bêta et état réduction, leurs traductions ne le sont généralement pas. Leurs traductions sont vraies. Enfin, pardon, l'égalité de leurs traductions est démontrable, mais pas par, juste par calcul, par bêta et état, ce qui pose tout un tas de problèmes avec des types dépendants, etc. Bon. Et d'où la version 2 de la traduction, donc Jaber, Lebertowski, Pedro, Tabarro et Sozo, où, en fait, ils observent qu'il suffit de changer la traduction des types pi, donc s'éloigner de l'orthodoxie des modèles Kripke, par exemple, ou du forcing de Cohen, et faire des choses plus informatiques, des choses en appel par nom, et tout va beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent ? C'est quoi leur idée de l'appel par nom ? C'est que le monde de l'argument, quand on traduit x de type A, quel paramètre, au lieu de dire bah, je le traduis dans un certain monde Q, ils disent je le traduis dans n'importe quel monde Q qui est accessible depuis P. D'accord ? Donc, l'argument x, il reste valable, d'une certaine manière, dans tous les mondes Q plus petits que P. Il n'y a pas lieu de choisir de le mettre dans un monde Q. Et du coup, la traduction des variables par nom, elle est beaucoup plus simple. Il suffit d'appliquer la variable x au monde courant, celui où on a besoin de l'utiliser. Et il n'y a plus besoin de morphisme θ dans tous les sens. Et en plus, au miracle, l'égalité par bêta et état réduction est préservée sous certaines conditions. Voilà, donc ça, c'est un collage qui fonctionne mieux, même s'il s'éloigne en fait des intuitions catégoriques ou de Kripke. Et alors maintenant, comment on utilise toutes ces choses-là, cette traduction systématique ? Eh bien, ça permet, elles permettent de transporter mécaniquement des définitions et des théorèmes de TT, la théorie des types de départ, par exemple Coq, dans son extension TT de G. Et Mathieu Sozo a même écrit des plugins Coq pour automatiser ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour déclarer un élément générique G de type A dans l'extension ? Eh bien, on définit manuellement, dans notre théorie des types d'origine, un terme, GF, forcing de G, si vous voulez, qui doit avoir le type pour tout P, traduction de A dans le monde P. D'accord ? Et donc, cette traduction, elle est, on la donne à la main, mais on montre qu'elle habite le bon type. Et par exemple, si on veut construire notre ensemble d'entiers génériques G, des nattes dans propre, on va prendre comme condition de forcing les fonctions finies de nat dans boule, et on va définir son forcing comme étant dans le monde P, dans un monde Q qui est accessible depuis P, et pour un entier N, le prédicat est vrai si la fonction finie Q est vraie en N. D'accord. Et c'est tout. En fait, il n'y a rien d'autre à démontrer. Enfin, si, il y a ça et quelques propriétés de fonctorialité, donc que ça commute bien avec les diagrammes. Et puis, c'est bon. Et donc, pour finir, il y a une très jolie application qui consiste à prendre comme ensemble de conditions de forcing, les entiers naturels. Donc, c'est quelque part, c'est les conditions de forcing les plus simples, d'accord. Donc, c'est antenne qui est ordonnée naturellement. Donc, le monde Q est accessible depuis le monde P si Q est inférieur ou égal à P. D'accord, Q est plus petit. Alors, ça s'appelle dans la littérature, donc Lars Birkedal et ses co-auteurs appellent ça « the topos of trees », ou très exactement, c'est la logique interne du topos des arbres. Ça, au moins, ça lui donne un nom. Et cette logique interne, elle a une interprétation intuitive très simple en termes temporels. D'accord, c'est-à-dire, dans le monde P, A est vrai. On peut lire ça comme A est vrai maintenant et ça restera vrai pendant P jours. Et puis après P jours, on ne sait pas. D'accord. Et du coup, dans cette logique, on peut définir une modalité qui est la modalité plus tard, et qui est simplement que une formule logique, la formule logique plus tard A est vrai aujourd'hui et pour P jours, si A est vrai à partir de demain et pour P moins un jour. D'accord. Donc A est vrai un peu moins longtemps, pour un jour de moins. Et donc, si on a zéro jour à notre disposition, plus tard de A est vrai, d'accord, c'est la fin du monde, donc tout est vrai plus tard. Et dans le monde P plus 1, plus tard de A est vrai, si A est vrai dans le monde P. Et alors cette modalité, elle est très amusante parce qu'elle elle valide la règle dite de Loeb, qui est que si plus tard de A implique A, alors A. Et ça se démontre très simplement, en fait par récurrence, d'accord, sur le nombre de jours, sur le monde P dans lequel on se trouve. Et en fait, mais cette règle de Loeb elle-même, c'est une forme de récurrence. C'est une forme de récurrence, d'accord. Elle vous dit que si vous pouvez montrer A sous l'hypothèse que A est vrai demain, alors A est vrai dès aujourd'hui. Et en fait, cette récurrence de Loeb, on peut la généraliser en un opérateur de points fixes. Donc, dans cette extension par forcing, d'accord, on peut juste donner des termes qui habitent les types suivants. Donc, un terme plus tard, dont le type est type flèche type, et pas juste des propositions logiques, on peut aussi dire plus tard pour un type de données. Et du coup, on peut définir un terme fixe, qui est un point fixe, qui, à partir d'une fonction, plus tard de A flèche A, vous renvoie une valeur de type A. Et on peut montrer une équation de point fixe sur ce terme. Sur cet opérateur. Donc fixe, d'une certaine manière, c'est le terme de preuve pour la règle de Loeb, mais comme il marche non seulement pour des preuves, mais aussi pour des calculs arbitraires, et il nous donne un opérateur de points fixes avec lequel on peut faire plein de choses. En particulier, on peut prendre des points fixes non pas sur des fonctions de plus tard des entiers dans les entiers ou d'un type de données dans un type de données, mais aussi des fonctions des types dans les types. De la beauté de la théorie des types où on mélange un peu tout joyeusement. Et donc, en spécialisant fixe, non pas sur un type de données comme NAT ou liste de NAT, mais sur set, une sorte de type, on arrive à construire un mu, donc un opérateur de points fixes sur les types, qui prend n'importe quelle fonction de set dans set et vous renvoie un set, donc un type pas trop grand, et des opérateurs fold et unfold, qui convertissent donc entre muf et sa version expansée, donc f de plus tard de mu de f. Et donc, en fait, ce type mu de f, c'est vraiment l'équivalent d'un type récursif camel, donc type t égale c of f de t, d'accord, avec unfold qui est un pattern matching et fold qui est l'application du constructeur. Mais ce qui est assez incroyable ici, c'est qu'on, comme en camel, on ne fait aucune hypothèse sur le constructeur de type f. D'accord. En coq, par exemple, on peut faire des choses comme ça, mais il faut que le f soit croissant. Il n'y a que des occurrences strictement positives. Dans d'autres théories, il faut que f soit contractif. Ici, on peut prendre des points fixes de n'importe quel type. Donc là, on a encore une situation de manipulation d'un objet dangereux. D'accord. Par exemple, un type récursif t qui est isomorphe à t flèche t, donc qui permet de coder les lambda termes purs et met en danger la terminaison. Donc là, la terminaison est en train d'exploser, là, derrière la vitre, mais les poignées du manipulateur, c'est les termes qui sont produits par cette traduction de coq dans ce monde étendu. Et là, on est encore dans coq et tout est fiable. Il n'y a pas de danger d'incohérence. Voilà. Et donc ces types récursifs généraux qu'on obtient par forcing, ça permet de donner des sémantiques dénotationnelles simples à des langages qui n'ont pas de normalisation forte, qui sont Turing complets. Donc j'ai déjà mentionné le lambda calcul pur, avec un type D isomorphe à D flèche D. Et dans la deuxième heure de cours, on va voir un exemple un peu plus compliqué quand on modélise les références mutables, donc la programmation impérative, où là aussi on se retrouve avec des équations de domaine un peu bizarres. Mais plus généralement, donc, cette idée naïve de compter les jours, et l'idée un peu moins naïve de cette modalité plus tard, en fait, rejoignent une technique puissante de sémantique, donc le step indexing, dont on va parler juste après la pause, dans le prochain cours. Voilà, donc pour finir, si vous voulez en savoir un peu plus, alors je vous recommande, si vous voulez en savoir un peu plus sur le forcing en théorie des ensembles, donc j'ai trouvé ces deux textes assez accessibles, donc A Beginner's Guide to Forcing, même s'il utilise une approche à base d'algèbre booléenne qui est différente de celle de Cohen et différente du peu que je vous ai esquissé. Et il y a aussi ce livre très accessible, je trouve, A Tour Through Mathematical Logic, qui parle justement de logique mathématique contemporaine, en particulier de théorie des ensembles, de manière accessible. Et puis, si c'est pour parler de plutôt, vous intéresser plutôt au forcing comme traduction des propositions et de preuves, donc ça, c'est les trois articles que j'ai mentionnés. Voilà, je vous remercie. Et donc, on reprend à 11h30.